Це було, це важко вчити, учити французьку мову, тому що я її ніколи не знав, ніколи не мав з нею так зв'язку.
En 2022, les écoles françaises ont accueilli plus de 20 000 élèves ukrainiens, dont Daniel que l'on vient d'écouter. La lumière médiatique est alors mise sur les dispositifs d'accueil des élèves allophones. Cette scolarisation rapide et soutenue par l'opinion publique n'est cependant pas représentative de la situation de tous les enfants allophones qui arrivent en France. La Convention internationale contre les discriminations en termes d'éducation, ratifiée par la France en 1961, énonce que les États s'engagent à accorder aux ressortissants étrangers les mêmes droits d'accès à l'enseignement qu'à leurs propres nationaux. Dans le cadre du droit spécifique des enfants, ces derniers doivent pouvoir être scolarisés partout où ils résident, quelles que soient leurs origines et parcours scolaires. Ce droit est-il toujours respecté? Et quels sont les obstacles à sa mise en œuvre? Par ailleurs, il ne suffit pas de scolariser les enfants qui arrivent pour leur assurer réussite et équité. Souvent compris comme un groupe homogène, le terme « élève allophone » recouvre des situations personnelles et sociales très diverses, des parcours scolaires et linguistiques variés. Cette diversité peut-elle être reconnue par une catégorie unique? Et que produit cette hétérogénéité dans les dispositifs adaptés? Quelles sont alors les difficultés que rencontrent ces enfants et leurs familles dans le parcours de scolarisation? Pour le savoir, nous avons mené l'enquête.
Enquête d'école, Adeline Outchranger.
Les enfants étrangers et immigrés qui arrivent sur le territoire ont le droit de s'inscrire à l'école et de suivre une scolarité. Cependant, il faut que leur niveau scolaire et de maîtrise du français soit évalué pour ensuite leur trouver une place dans des unités d'accueil appelées unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants.
On fait un positionnement, donc ils passent un test de français, s'il a déjà fait un petit peu de français. Si on voit qu'il comprend un petit texte simple, on passe sur une activité un petit peu plus compliquée pour essayer de juger son niveau. Il passe un test en anglais, un test de mathématiques, sans consigne, pour que la langue n'interfère pas dans ses résultats. Et puis, on le teste également dans sa langue maternelle, pour savoir s'il a été scolarisé, puisqu'il y a plein d'élèves qui n'ont pas été scolarisés antérieurement lorsqu'ils arrivent. Et puis, on essaye d'évaluer son niveau et dans quelle classe on peut l'intégrer.
En parallèle, et en vertu du principe d'inclusion, les élèves sont d'abord inscrits dans une classe ordinaire et suivent les enseignements correspondant au mieux à leurs besoins. Un élève est nommé EANA, élève allophone nouvellement arrivé, quand il est identifié comme ayant des besoins linguistiques en FLS, français langue seconde. En effet, la pédagogie du français comme langue étrangère, dite FLE, ne suffit pas car elle est conçue comme l'apprentissage d'une langue vivante dans un pays non francophone. Le FLS intègre la langue comme outil de l'acquisition des savoirs, des compétences scolaires et sociales. Le but est ensuite que le français devienne pleinement la langue de la scolarisation qui est liée à chaque discipline, avec ses codes et ses implicites, comme l'usage de la voix passible en histoire-géographie par exemple.
Souvent, les professeurs disciplinaires de sciences, de mathématiques, ne s'interrogent pas a priori sur la langue de leur discipline, qui leur paraît à peu près naturelle.
On observe déjà une tension. L'intégration dans ces unités peut prendre plusieurs semaines, voire mois selon les places disponibles. Puis, l'enseignement linguistique occupe plusieurs heures par semaine. Les enfants subissent donc une rupture dans leur scolarité, alors même que leur inclusion en classe ordinaire est l'objectif visé. D'ailleurs, plus les enfants sont âgés lors de leur entrée dans les classes françaises, plus leur intégration se fait difficilement. On estime qu'il faut près de 7 ans pour raisonner dans une langue étrangère, et Claire Schiff écrit en 2020 qu'un élève arrivé à l'âge de 12 ans a deux fois plus de chances de se maintenir dans le système scolaire 4 ans après la classe d'accueil qu'un élève arrivé à 13 ans. Les parcours migratoires peuvent être motivés par de grandes ambitions scolaires et professionnelles, les élèves allophones étant alors très investis dans leur scolarité. Les désillusions peuvent être alors grandes, notamment pour les élèves qui ont migré tard dans l'espoir de faire des études en France.
Le moment que je suis arrivé en France, c'était un peu difficile parce que je savais pas parler français, je ne connaissais personne. Et aussi, j'avais peur. Oui, maintenant ça va, je suis plus à l'aise.
En France, il semble difficile de considérer le plurilinguisme et le multiculturalisme comme une richesse des élèves. Au contraire, cela est souvent vécu comme un obstacle aux apprentissages. La maîtrise de la langue étant vécue comme une priorité dans l'enseignement, les compétences des élèves allophones sont mal évaluées et perçues à la baisse, au point que les élèves parvenant à bien répondre aux exigences sont qualifiés de « bonnes surprises ». Leur plurilinguisme et leur niveau scolaire avant l'arrivée en France est difficilement mis en valeur, alors qu'il pourrait être un appui précieux justement dans l'apprentissage d'une nouvelle langue. Lors d'une enquête menée dans un lycée général de Marseille, les autrices remarquent que les enseignants des UPE2A ne sont pas toujours associés au conseil de classe, par exemple. Et il semble qu'un élève allophone soit vu comme en difficulté par nature, alors que les quatre parcours des lycéennes analysés témoignent d'une ténacité et d'une motivation remarquables. Mariama Bayo-Kali, chercheuse en sciences du langage, soutient qu'un levier de réussite scolaire pour les élèves allophones serait la reconnaissance et l'inclusion des langues maternelles à l'école. Elle analyse alors le travail mené lors des ateliers OEPRE, autrement dit, ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants. Ouverts en 2008, sous l'égide du ministère de l'Intérieur, ils ont pour objectif l'intégration des parents par l'acquisition à la fois de la langue, des valeurs républicaines et de la culture nationale. Cependant, Mariama Bayo-Kali observe que ces ateliers peuvent être l'occasion de prévenir le malaise et le dilemme qui peut saisir les enfants entre l'angle de la famille et l'angle de l'école. Il s'agirait de valoriser les langues parlées à la maison, de les faire voir et vivre. En reprenant, par exemple, les expériences genevoises du sac d'histoire.
En favorisant la langue maternelle, en enrichissant aussi la langue maternelle, on enrichissait aussi le français en même temps.
Il y a beaucoup de parents qui hésitent à parler la langue de la famille, la langue maternelle à la maison, parce qu'ils ont peur que les enfants n'apprennent pas bien le français.
Un obstacle objectif à la réussite est la situation judiciaire des parents qui demandent l'asile. Les enquêtes montrent que les enfants allophones deviennent rapidement, grâce à leur maîtrise de la langue, les soutiens de leurs parents. Ils traduisent, remplissent les papiers, accompagnent les proches au rendez-vous. Outre les absences, l'inquiétude et le stress ne font pas bon ménage avec les apprentissages, tout comme les conditions de logement précaires dans les bidonvilles ou squats, si ce n'est la rue quand ces derniers sont évacués. Les familles étrangères qui arrivent sont le plus souvent précaires, voire même dans une situation irrégulière qui les empêche de travailler, mais aussi d'envisager sereinement la scolarisation.
Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra illegal.
Les établissements et leurs administrations ne doivent alors demander aucun titre de séjour ou document qui justifierait de la régularité de la situation des parents, bien que cette pratique ait pu se faire. Cela a inspiré la circulaire de 2002 qui recadre
« Il n'appartient pas au ministère de l'Éducation nationale de contrôler la régularité de la situation des élèves étrangers et de leurs parents au regard des règles régissant leur entrée et leur séjour en France. »
De fait, la scolarisation peut faire peur car les parents redoutent ensuite les convocations policières sans qu'un lien officiel soit établi entre les deux événements. De même, les ateliers OEPRE cités auparavant sont réservés aux parents en situation régulière.
Mon enfance s'est terminée quand j'ai quitté mon pays. Et du coup, je me suis dit que je ne suis plus une enfant parce que j'ai traversé la mer, j'ai dormi dans la rue, j'ai vécu des choses.
Les enfants qui arrivent sans parents, les mineurs non accompagnés, sont ceux pour qui l'accueil et la scolarité sont les plus difficiles. Premièrement parce qu'ils sont plus âgés. La majorité a entre 16 et 18 ans. L'accueil en classe se fait dans des disciplines très diverses qui nécessitent d'être capable de mener une réflexion en français. On les oriente alors plus facilement en lycée professionnel, où ils auront moins besoin d'écrire, mais aussi et surtout parce qu'on y voit un moyen plus rapide de se former et trouver un emploi, stratégie liée à la demande de titre de séjour en tant que futur majeur. Ce qui peut être vécu comme un déclassement et une déception. Par ailleurs, leur droit à la scolarisation est peu respecté. car conditionnés à leur prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, autrement dit lorsqu'ils sont officiellement reconnus comme mineurs. Écoutons une actrice de terrain du milieu associatif.
De recours en recours, il peut y avoir une période qui peut durer jusqu'à 18 mois, 2 ans, avant cette prise en charge. Et voilà, et pendant cette période de recours, s'il n'y avait pas le milieu associatif et le milieu bénévole, il n'y aurait pas scolarisation.
Cependant, la scolarisation est d'autant plus importante qu'ils sont isolés et dans des situations très précaires et vulnérables.
L'école est vraiment prégnante pour eux parce que finalement, les seuls adultes référents en face d'eux qui restent, ce sont les personnels scolaires ou les enseignants.
En mai 2023, la France a été mise en examen devant le Comité des droits de l'enfant, notamment pour sa gestion des mineurs isolés allophones à Mayotte et en Guyane. Les experts de l'ONU soulignent de grandes inégalités de traitement sur ces territoires quant à la scolarisation et l'accès à la nationalité. Ces territoires concentrent une population très jeune, dont de nombreux allophones et très peu de moyens et de capacités d'accueil. Marie-Françoise Valette, maître de conférence en droit public, constate que le point commun des publics que l'État rechigne à scolariser est leur vulnérabilité et leur isolement plutôt que leur nationalité. C'est le cas des enfants porteurs de handicap, mais aussi des immigrés précaires, en situation irrégulière ou itinérante. Elle affirme que l'État français ne respecte pas toujours les obligations qui lui incombent en vertu du droit à l'éducation. Elle rappelle que l'obligation de scolariser ne se confond pas avec l'obligation scolaire qui concerne les parents et tuteurs. Le rapport Evascol de 2018 relève également que l'État doit scolariser tout mineur qui serait l'objet d'une demande dès 3 ans et jusqu'à 18 ans. Pour conclure, la scolarisation des élèves allophones relève du droit des enfants et constitue tant un défi qu'un devoir pour l'État français qui s'est engagé à ne pas les discriminer selon leurs origines et leur offrir un avenir. C'était Enquête d'école avec Adeline Hunscheringer et Sébastien Boudin à la réalisation et au mixage. Retrouvez toutes les références sur le site de Cadécole et rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.